Et je pense que avec Thérèse de l'Enfant Jésus, on a vu ça la fois dernière, qu'en me laissant attirer par le Seigneur, j'attire vers lui d'autres âmes. En me laissant prendre par Jésus, c'est de la limaille de fer qui va aussi vers lui. Toute âme qui s'élève, disait Élisabeth le Sœur, élève le monde. Donc c'est un thème merveilleux de la prière devant le Saint-Sacrement. L'avant-dernière est peut-être encore plus belle. Je pose ici devant le Saint-Sacrement, m'unir à l'adoration de Jésus. Parce que qu'est-ce qu'il fait Jésus en ce moment dans tous les tabernacles du monde ? Il adore son Père. Il est adoré par les anges qui sont là, mais lui, qu'est-ce qu'il fait dans son âme humaine ? Il adore son Père. Dieu adore Dieu. C'est le grand mystère chrétien. J'aime dire, on n'est pas dans une mosquée, mes frères. Dans une mosquée où se trouvent ceux qui adorent bien dans la nef. Dans une église où se trouve celui qui adore bien sur l'autel. Il y a vraiment des chrétiens qui oublient cette dimension fondamentale. J'ai beaucoup apprécié l'humilité d'une personne qui, après avoir entendu un exposé de ce genre, a dit devant tout le monde, « Ça fait 30 ans que j'anime les adorations eucharistiques dans ma paroisse. J'ai prié des heures et des heures devant le Saint-Sacrement. On ne m'avait jamais fait penser que Jésus, dans l'Eucharistie, il adorait son Père. » Ça ne l'a pas empêché de très bien prier, vous voyez, mais c'est quand même dommage d'oublier cet aspect fondamental de la piété chrétienne. C'est le béaba de l'Eucharistie. Apprendre un enfant à participer à l'Eucharistie, c'est lui dire, tu sais, à l'Église, celui qui prie le mieux, c'est Jésus. Tu pries Jésus, tu as bien raison, parce qu'il est ton Seigneur et ton Dieu. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait à longueur de messe ? Il adore son Père. C'était la grande idée des prêtres français du XVIIe siècle, qu'on appelle l'école française de spiritualité, lancée par le cardinal de Bérulle. Ce génie mystique qui n'a pas été béatifié, mais qui aurait pu l'être, celui qui est allé chercher des carmélites d'Espagne pour les installer rue Saint-Jacques à Paris, qui a fondé l'oratoire, et qui a été le penseur de M. Vincent, de M. Ollier, de Saint-Jean-Eudes, de ces prêtres qui ont inventé aussi les séminaires, et pour qui Jésus était avant tout le grand religieux du Père. Jésus y prie, mes chers amis. Éternellement, Dieu adore Dieu. C'est fondamental, quoi. C'est tellement difficile d'adorer Dieu que Dieu lui-même, que le Fils de Dieu a pris une âme humaine. Il n'a pas seulement pris un corps, il a pris une âme de créature. Il est vrai Dieu et vrai homme. Donc Jésus a une âme de créature. Jésus, il est prosterné éternellement devant son Père. C'est l'une des grandes raisons de l'incarnation. Je vous l'ai dit avec le père de Lubac, né à Cambrai, c'est tellement difficile d'adorer Dieu que le Fils de Dieu lui-même a pris une âme humaine pour qu'il y ait enfin une créature qui sache adorer Dieu. Mon ange gardien, comment a-t-il fait pour faire le bon choix ? Comment mon ange gardien n'est-il pas devenu un démon parce qu'il a reçu une grâce de Jésus ? C'est par Jésus que les anges adorent Dieu. Comment la Sainte Vierge est-elle devenue la Sainte Vierge ? Par une grâce qui vient de Jésus. Donc, devant le Saint-Sacrement, vous pouvez penser que Jésus est là en train d'adorer son Père. Vous vous mettez dans un coin de l'église, sur un petit strapontin, et vous vous unissez à l'adoration de Jésus. Et vous dites comme au cours de la messe, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'élan du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. C'est normal que vous ne sachiez pas adorer. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu chercher des adorateurs du Père qui adorent avec lui, en lui et par lui. Donc, quand vous ne savez pas prier devant le Saint-Sacrement, c'est pas grave. Vous vous unissez à l'adoration de Jésus lui-même, le Fils bien-aimé du Père, le seul à bien prier, le seul à bien adorer, etc. C'est une piste essentielle. Vous restez une heure là-dessus. Autrement dit, devant le Saint-Sacrement, vous pouvez dire le Notre Père, le Te Deum, le Magnificat, une prière eucharistique, des prières qui s'adressent toutes au Père. Jésus dit pas, attention, si c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, hein. Il ne s'agit pas de prier le Père, mais il est ravi que par lui et avec lui et en lui, vous alliez vers le Père. Il est venu pour ça. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui est mieux, d'adorer le Père ou d'adorer Jésus? Ben, les deux, mon capitaine. Mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Enfin, si, en fait, vous faites les deux mêmes choses, parce que quand vous adorez Jésus, vous adorez le Père, vous adorez la Sainte Trinité. Enfin, on peut penser plus explicitement qu'on adore Jésus, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Ou bien on peut penser que par lui, on s'adresse au Père, ce que vous faites dans toutes les Eucharisties. Non, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la louange du Père. Enfin, dernière piste, la 12e, vous pensez qu'un jour, il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et que votre corps lui-même sera transfiguré à l'image et sous la mouvance de ce Jésus transfiguré. Moi aussi, Jésus, un jour, j'aurai un corps comme le tien, j'aurai plus de maladie, j'aurai plus d'arthrose, on sera tous d'accord, il n'y aura plus de jalousie, enfin, ce sera le ciel, quoi. Donc, vous pouvez penser longuement au bonheur du ciel dont nous parlions l'année dernière et à la résurrection des corps. D'ailleurs, si vous regardez les post-communions des liturgies, presque toutes les post-communions font allusion à ce banquet éternel du ciel dont le banquet de la terre est une anticipation. Les Eucharisties, c'est l'antichambre du paradis, mais ce n'en est que l'antichambre. Et donc, ce n'est pas du tout idiot de penser « nous attendons ta venue dans la gloire ». Bon, alors vous prenez quelque chose que vous aimez bien. Moi, j'aime bien. La dernière fois que j'ai vu Jean-Claude Janada, il m'a donné plusieurs disques parce qu'il a vu que dans mon livre « Sur les mains de Jésus », je cite l'un de ses chants. Du coup, bon. « Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage ? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. » Voilà la façon dont je peux me représenter le ciel. Sur terre, le visage de Jésus, je sais qu'il me sourit, mais je ne le vois pas. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage, je te verrai face à face, je veux voir Dieu. Et puis les mains de Jésus sur terre, je ne les vois pas, je ne les sens pas. Quand je me laisse tomber dans les mains de Jésus, je ne les ai jamais senties. Il y en a qui ont reçu la grâce de le sentir. Bien, il y en a beaucoup, le petit Van, Sœur Myriam de Jésus crucifié, Saint Gemba Galgani, il y a beaucoup de saints qui ont reçu la grâce mystique de sentir qu'ils étaient vraiment dans le Christ Jésus. On appelle ça une grâce mystique, c'est l'exception. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a jamais senti qu'elle était dans les mains de Jésus, alors qu'elle aimait énormément y penser. Et je pense que c'est devant une image du même genre que Thérèse a composé les magnifiques vers qui se trouvent maintenant inscrits dans la basilique supérieure de la basilique de Lisieux, entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage, le total abandon, voilà ma seule loi, sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi. Enfin, si vous avez beaucoup de difficultés à prier, vous pouvez sortir de votre poche votre dizainier ou votre chapelet et demander à la Sainte Vierge de prier pour vous. Non pas pour faire marial, mais parce que la Sainte Vierge, elle prie tellement bien Jésus, le fruit béni de ses entrailles, que vous pouvez aussi la prier plutôt que de vous ennuyer ou que de dormir. Là encore, Jésus ne dit pas « attention ici, ce n'est pas le moment de prier la Sainte Vierge, c'est moi qui suis là ». Jésus est ravi qu'on demande à sa maman de prier pour nous, parce qu'elle dit Jésus avec une affection que personne d'entre vous ne peut égaler. Et personnellement, j'aime beaucoup me préparer aux communions devant la fameuse icône vénérée à Cambrai, l'icône Notre-Dame de Grâce. Vous allez voir comment on peut se préparer à la communion devant cette image. Surtout si vous pensez que Marie a beaucoup communié à la fin de sa vie, puisque l'Évangile nous dit qu'elle a été accueillie par Saint Jean après le calvaire, et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc Marie a dû communier énormément, très souvent, des mains de Saint Jean. Il y en a un peu le vertige quand on pense à la foi avec laquelle Marie communiait à ce corps qu'elle avait porté dans son ventre pendant 9 mois. Bien sûr, ce n'était plus un bébé qu'elle recevait, c'était le corps transfiguré de Jésus, mais c'était ce corps. Et elle, certainement qu'elle ne sentait rien du tout. Elle a vécu ses communions dans la foi la plus pure. Elle croyait que c'était Jésus qu'elle recevait. Et regardez cette icône. La Sainte Vierge nous regarde du coin de l'œil et elle nous dit « Tu veux être un saint? Fais comme moi. Prends Jésus dans tes bras et lui te prendra dans ses mains. Car lorsque Marie communiait, qu'est-ce qui se faisait? Jésus reprenait sa maman dans les mains. Seulement, ce n'était plus des petites mains de bébé caressant sa maman. C'était les mains de Jésus, les mains transpercées et transfigurées de Jésus qui venaient empoigner de nouveau sa maman pour la rendre de plus en plus sainte. Car n'oubliez pas que la Sainte Vierge, elle a grandi en foi, en espérance et en charité toute sa vie. Elle est bien plus sainte, Marie, après la Pentecôte qu'à l'Annonciation. Ce n'est pas parce qu'elle a été immaculée dès le début de sa conception qu'elle n'a pas grandi. Jésus lui-même a grandi en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et les hommes. À bien plus forte raison, Marie. Et à la fin de sa vie, Marie a sans doute réalisé que toutes les grâces qu'elle avait reçues, elle les avait reçues par ce corps qu'elle avait porté dans son ventre pendant 9 mois. Et elle se laissait de nouveau embrasser par Jésus. Jésus lui disait, allez maman, prends mon corps, comme tu le faisais lorsque j'étais bébé et que tu me portais dans tes bras. Prends mon corps et moi je vais te reprendre dans mes mains, maman Marie, pour te faire encore plus sainte, pour que tu sois de plus en plus investie par Jésus ton Fils, que tu sois remplie par tout l'Esprit Saint qu'il y a dans mon corps. C'est inépuisable la contemplation d'une icône de tendresse. Ce n'est pas seulement un geste de tendresse, c'est un geste de sauveur. Jésus, il est là pour sauver sa maman. Le Concile Vatican II a rappelé avec force que Marie a été rachetée. Elle a été rachetée. Elle est même la créature qui a été le plus rachetée. Au pied de la croix, il y a Marie-Madeleine, la pécheresse, et Marie de Nazareth, la toute pure. Celle qui est le plus rachetée, c'est Marie de Nazareth. Tellement rachetée qu'elle a été préservée de tout péché. Alors, je vous propose de chanter devant cette icône un petit refrain que j'ai inventé pour célébrer ces mains de Jésus que nous avons dans l'Eucharistie, mais que nous avons aussi ailleurs, parce que nous sommes dans les mains de Jésus ici. Nous ne le sentons pas, mais nous serions des saints si nous y pensions davantage. Nous sommes toujours, comme dit saint Paul, dans le Christ Jésus.